Bon, j'ai l'impression que je suis aussi branché que si j'étais à l'hôpital. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Il y a quelques mois, j'étais à Saint-Jérôme, à l'église baptiste réformée. Et puis au printemps, j'étais aussi à Actonville. Alors maintenant, je suis ici. Donc, il semblerait que c'est jamais 203. Donc voilà, maintenant c'est ma troisième église baptiste réformée que je visite, alors je suis très content d'être parmi vous. Je ne sais pas si vous avez une piscine. Moi j'ai une piscine et j'ai eu des problèmes avec ma piscine cet été. J'ai eu des problèmes parce que je n'ai pas mis dans ma piscine tous les produits que j'aurais dû mettre. Alors, c'est un petit peu insultant quand vous avez un fils qui a une piscine, puis sur nous, elle est très belle, puis la vôtre n'est pas belle du tout. Votre fils est meilleur que vous, vous rendez compte? Alors, j'ai fait ce que mon fils a fait, j'ai pris un échantillonnage d'eau, puis je l'ai amené au magasin, et ils m'ont donné des consignes, ils m'ont dit, tu dois mettre tel produit, ensuite tel produit, puis respecte bien les quantités. Et j'ai évidemment compris à ce moment-là que c'était extrêmement important de respecter les conseils qu'on me donnait. Bon, ce n'était pas des ordres, bien sûr, mais c'était des conseils. Et c'est un petit peu la même chose avec la parole de Dieu. C'est très important de respecter ce que Dieu nous dit, pas simplement parce que c'est une option, mais le respecter puis le mettre en parole parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu parle. Et parce que la parole de Dieu a une autorité. Cet après-midi, je voudrais regarder avec vous un texte qui mentionne la parole de Dieu et qui nous montre l'importance d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de ne pas faire ce que j'ai écrit dans le titre de cet enseignement pour aujourd'hui, de ne pas faire une écoute partielle. Vous savez, on est bon pour faire des écoutes partielles. On sélectionne certaines choses et on écoute ce qu'on veut bien écouter. Et le texte devant nous encourage à prendre au sérieux la parole de Dieu et à ne pas l'écouter de manière partielle et surtout de ne pas écouter ce qui nous intéresse par rapport à d'autres commandements de Dieu qui ne font un petit peu moins notre affaire. Alors, je vais tout d'abord commencer par regarder avec vous le contexte du chapitre 13 de 1 roi. Comme vous voyez à l'écran, le chapitre qui nous intéresse ce matin, c'est le chapitre 13 du premier livre des rois. Là où il est question d'un jeune prophète, dont on ne connaît pas le nom, mais un jeune prophète qui est envoyé par Dieu pour aller parler au roi Jéroboam. Donc on va regarder un petit peu le contexte de la mission de ce prophète et ensuite nous lirons ensemble une première partie de ce chapitre 13 que nous commenterons et ensuite nous terminerons par la dernière partie de ce chapitre 13 pour terminer aussi notre enseignement de ce matin. Donc le contexte de la mission de ce prophète, contexte en fait du chapitre 13. Là, j'essaie de voir si la souris marche. Elle n'est pas très sensible. Est-ce que c'est moi qui... Ouais. Ça marche? Bon, merci beaucoup. Alors le contexte de ce chapitre 13, c'est celui de l'idolâtrie de Salomon telle qu'elle nous est décrite au chapitre 12 de ce livre des rois. Vous savez que dans Deutéronome, le texte biblique donne des conseils pour le roi. Ah, c'est bon ça? Ah voilà. Le Deutéronome chapitre 17 nous donne des conseils pour les rois. Et le premier conseil qui nous est donné, c'est que le roi n'ait pas un très grand nombre de chevaux qu'il aurait achetés en Égypte. L'Égypte à l'époque, c'était la puissance internationale de l'époque, ou une des puissances internationales de l'époque. Et Salomon aurait pu être tenté dans sa vie, comme n'importe quel autre roi par la suite, à se constituer une armée puissante. Et pour se constituer une armée puissante à l'époque, il fallait avoir des chevaux et des chars. Et acheter des chevaux en Égypte, c'était une des façons, peut-être la meilleure, de se constituer une armée solide. Et le texte biblique de Deutéronome, chapitre 17, versets 16 et 17, interdit au roi de se constituer une armée puissante pour éviter qu'il ne s'appuie sur ses propres forces et non pas sur le Seigneur. Deuxième conseil, deuxième recommandation qui est faite dans ce passage, c'est que le roi n'ait pas un très grand nombre de femmes, et en particulier des femmes étrangères. Et Salomon qui a décidé de se constituer une armée, Salomon qui a décidé d'acheter des chevaux en Égypte, malgré le conseil de ce texte de Théronome, Salomon a décidé aussi de s'affilier à l'Égypte par mariage. Et Salomon a eu beaucoup de femmes, comme vous le savez, et notamment beaucoup de femmes étrangères, et des femmes qui ont amené leurs dieux étrangers, qui adoraient leurs dieux étrangers en Israël, et qui ont aussi encouragé, incité Salomon à adorer des dieux étrangers. Le troisième contexte qui a amené Salomon dans l'idolâtrie, c'est qu'il avait rendu l'or et l'argent à Jérusalem extrêmement commun. C'est-à-dire qu'il avait enrichi le pays, il s'était enrichi lui-même, et il avait beaucoup de richesses. Donc trois éléments qui sont des pièges, et qui peuvent nous faire tomber dans l'idolâtrie. Premièrement, la puissance militaire. Deuxièmement, les dieux étrangers avec les femmes étrangères. Et troisièmement, la richesse. La richesse qui peut être un piège. Donc Salomon, à la fin de sa vie, s'est détourné de Dieu. Et vous connaissez son histoire. Il s'est détourné de Dieu et Dieu a prononcé un jugement sur Salomon et sur son royaume. Et dans le contexte de ce passage, nous voyons dans 1 Roi, chapitre 11, le jugement de l'Éternel qui va culminer dans la division du royaume d'Israël. Alors tout d'abord, au chapitre 11, versets 9 à 13, il est question de l'annonce du châtiment divin. Dieu annonce à Salomon que, par égard pour lui, ce châtiment n'interviendra pas durant sa vie, mais va intervenir durant le règne de son fils. Donc le châtiment divin est annoncé. Et ce châtiment divin se matérialise par les ennemis que Dieu a suscités contre Salomon. Alors vous avez d'abord Hadad qui s'est réfugié en Égypte. Ensuite vous avez au verset 14 du chapitre 11, vous avez Rezon qui au verset 23 est aussi devenu un ennemi de Salomon, et finalement Jéroboam lui c'était un soldat d'Israël, un serviteur de Salomon. Les deux autres étaient des étrangers, mais lui Jéroboam a dû fuir en Égypte, mais ça a été finalement le plus grand ennemi de Salomon, puisque c'est lui qui va devenir le roi d'Israël du Nord après la division. Et cet épisode nous est annoncé dans les versets 27 à 40 de ce même chapitre 11. Le prophète Achija rencontre Jéroboam, prend son manteau, le déchire en deux, et puis le déchire pour lui montrer que Dieu va déchirer le royaume de Salomon et que Jéroboam va hériter des 10 tribus du nord, alors que le sud va rester parmi les descendants de Salomon. Donc l'annonce est faite, et les versets 27 à 40 soulignent très très bien que c'est Dieu qui donne à Jéroboam le trône du royaume du Nord. C'est Dieu qui intervient. Si nous continuons à lire dans le contexte, nous verrons que lorsque la prophétie se réalise et que le royaume de Dieu se divise, le royaume d'Israël se divise, nous voyons le péché de Jéroboam. Mais avant de parler un petit peu du péché de Jéroboam, regardons un petit peu comment la division du royaume s'est opérée. Salomon, il meurt, il laisse son fils sur le trône, Roboam. Alors, il ne faut pas confondre Roboam, qui est le fils de Salomon, et Jéroboam, qui lui est devenu le roi d'Israël du Nord. Alors, Roboam, le fils de Salomon, reçoit la visite des tribus du Nord qui se plaignent du lourd fardeau imposé par Salomon, son père. Vous savez, Jérusalem était très riche, Salomon était très riche, mais il y avait un prix à tout ça. Et le prix à payer, c'était le fardeau des taxes que toutes les tribus devaient payer au roi Salomon. Et les tribus du Nord profitent de la mort de Salomon et de l'accession au trône de son fils Roboam pour venir voir ce dernier en lui disant, bah, écoute, allège un peu le fardeau fiscal qui est sur nos épaules. Alors Roboam demande conseil et les conseillers de la cour lui disent, bah, écoute, ce serait peut-être une bonne idée d'alléger un petit peu le fardeau fiscal des tribus du Nord. Mais il demande aussi conseil à ses jeunes amis avec qui il a été élevé. Et ses jeunes amis lui donnent le conseil suivant, écoute, sois encore plus sévère que ton père, et impose ses taxes et impose encore davantage sur les tribus du Nord. Alors quel était le bon conseil? Bien, l'histoire nous a montré que le conseil de ses amis, que Roboam a suivi, n'était pas le bon conseil. Car lorsque les tribus du Nord ont réalisé qu'ils n'avaient pas l'écoute du nouveau roi, elles ont décidé de se séparer du reste d'Israël. Donc 10 tribus se séparent et Roboam reste roi d'Israël du sud, de Juda, alors que Jéroboam devient le roi des 10 tribus du Nord. Donc, Roboam, le fils de Salomon, commet une erreur qui conduit à la division du royaume en deux. Et vous avez, par la suite, le comportement de Jéroboam, même si Dieu lui a dit, « Je te donne les 10 tribus, si tu m'obéis, si tu m'es fidèle, je vais te donner une dynastie. » Ça, c'est quand même toute une promesse. Mais Roboam s'est dit, « Ouais, Dieu m'a fait une promesse, mais moi j'ai un problème. » Puis le problème que j'ai va peut-être empêcher la promesse de Dieu de se réaliser. Alors, quel était ce problème? Mais Roboam s'est dit, « Je ne peux tout de même pas permettre aux habitants d'Israël du Nord, à ces 12 tribus, d'aller adorer à Jérusalem qui est au sud en Juda. » Parce que ma population va partir à Jérusalem adorer, puis à un moment donné, je n'aurai plus contrôle sur ma population. Ça va être le roi de Juda, Roboam, qui va contrôler les habitants du Nord. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de permettre à mon peuple d'aller adorer à Jérusalem. Alors, pour régler le problème, Jéroboam a eu l'idée, sa solution en quelque sorte, ça a été de garder le peuple du Nord dans le Nord, mais de lui offrir des lieux étrangers. Et il lui a offert à adorer le veau. Vous savez, un petit peu comme le veau d'or dans l'épisode dans le désert. Et il y avait des sanctuaires, il a établi des sanctuaires destinés à adorer ce veau d'or, ce veau. Et donc, il a incité le peuple d'Israël du Nord à commettre l'idolâtrie. Alors évidemment, Dieu fait des promesses. Dieu a fait une promesse à Jéroboam, il lui a dit, si tu m'es fidèle, moi je te donnerai une dynastie pour toujours. Jéroboam n'a pas accepté par la foi la parole de Dieu. Parce que quand Dieu demande quelque chose, souvent, selon notre perspective humaine, nous pouvons douter de la réalisation de ses promesses. Mais si Jéroboam avait fait confiance à Dieu, sa dynastie aurait été assurée. Il a péché. Il a attiré le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Alors voilà un petit peu le contexte de ce chapitre 13 que nous allons maintenant commencer à lire. Un roi, chapitre 13, lisons à partir du verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. À Bethel, c'était l'endroit où cette idolâtrie se faisait. C'est là où se trouvait le veau, la statue du veau. Donc, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il faut avoir du courage, hein. Venir interrompre le roi qui est en train d'adorer son propre autel, qui est en train de commettre l'idolâtrie, mais en pleine adoration. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Voilà la prophétie que ce jeune prophète fait contre cet autel. Et cette prophétie va se réaliser plus tard, lorsque Josias sera le roi de Juda. Et le même jour, verset 3, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. Il était comme frappé de paralysie. Verset 5. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture. » Et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Alors ces quelques versets, cette péricope nous présente ce jeune prophète. Ce jeune prophète qui a une mission de la part de Dieu, qui écoute Dieu et qui est fidèle à ce que Dieu lui demande. Alors examinons un petit peu ce jeune prophète qui est téméraire. Il vient sur le terrain du roi Jéroboam. Il vient l'interrompre alors que celui-ci est en train de commettre l'idolâtrie. Ce prophète, nous dit le texte, est envoyé par Dieu. Et certainement que lorsque Dieu envoie un serviteur, il équipe son serviteur. Même si le serviteur est parfois récalcitrant, il équipe son serviteur. En tout cas, Dieu avait donné à ce jeune homme bien du courage, bien de la témérité pour accepter d'accomplir cette mission. Et dans ces quelques versets, non seulement le prophète vient déranger le roi, mais aux yeux de Jéroboam, il a le culot de maudire l'autel. Il interpelle vraiment l'autel. « Autel, autel !» Et là, il annonce à l'avance un événement qui va avoir lieu plusieurs siècles plus tard. Le jeune prophète que nous voyons, qui prononce cette parole de condamnation, semble avoir un ministère, on va utiliser un vocabulaire d'aujourd'hui, que je n'aime pas trop utiliser, mais il semble avoir un ministère puissant. Tu sais, aujourd'hui, on parle de serviteur puissant. On parle de plein de choses puissantes aujourd'hui, tu sais. On parle de la puissance de la prière, la puissance de l'évangélisation, la puissance de ceci, la puissance de cela. Puis on oublie que celui qui est tout puissant, c'est le Seigneur, tu sais. Donc, mais toujours est-il en termes humains, oui, c'est vrai, que ce jeune prophète est efficace, là. Tu sais. Dieu agit à travers lui. Il agit à travers son ministère. Qui n'aimerait pas avoir un ministère comme lui? Qui n'aimerait pas être un héros de l'Éternel comme lui, tu sais. L'épisode de la main sèche est tout de même assez remarquable. Jéroboam donne l'ordre afin que ces hommes se saisissent du jeune prophète et il ne peut même plus retirer la main, sa main est devenue paralysée, le texte dit sa main est devenue sèche, il ne pouvait même pas la ramener à lui. Donc cet épisode est quand même assez remarquable, surtout qu'il demande... Il demande par la suite au prophète d'intervenir, puis le prophète intervient. Donc la main sèche est un élément qui nous montre l'efficacité du ministère de ce prophète. Dieu est avec lui. Dieu permet que des événements tout à fait particuliers, uniques, se déroulent. Tu sais, en tant que serviteur de Dieu, on aimerait bien que ce genre de situation arrive dans nos églises, eh? Que des tas de choses arrivent dans l'église, puis que tout le monde voit que c'est Dieu qui agit. Eh? On aimerait ça. Hein? Ensuite, dans ce passage, non seulement il est question de l'épisode de la main sèche, mais il est question du signe de l'autel et de la cendre. Le prophète a fait une prophétie, il a prononcé une prophétie sur l'autel. Et pour montrer que cette prophétie va arriver, il donne un signe, et un signe qui va se réaliser pratiquement tout de suite. L'autel va se fendre et la cendre qui était dessus va se répandre. Waouh, ça c'est tout un ministère. Ça c'est tout un ministère. C'était, en termes humains, un jeune prophète puissant, n'est-ce pas? L'autre élément, c'est la guérison de Jéroboam par la prière. Regardez au verset 6. Le roi implore le jeune prophète et lui dit, écoute, prie ton Dieu. Souvent, les païens peuvent nous demander de prier notre Dieu. Ce n'était pas une prière de repentance, là, de la part du roi Jéroboam. Il était mal pris. Il était coincé. Et il s'est dit, si c'est Dieu qui intervient lors de cet épisode et à travers de ce prophète, il n'y a que lui qui peut intervenir pour me donner la guérison face à cette main paralysée que j'ai maintenant. Donc, l'homme de Dieu, ce jeune prophète, implore l'Éternel et le roi retire sa main. Sa main qui devint comme auparavant. Waouh, ça c'est quelque chose. Ah, moi j'aimerais ça que des événements comme ça se produisent dans mon ministère. Tu te rends compte? Les gens là qui assisteraient à l'église, ils seraient tous époustouflés par moi, tu sais. Et peut-être que j'aurais davantage de crédibilité dans mon ministère, tu sais. Toujours est-il. Ce jeune prophète, c'était un prophète aussi obéissant. Non seulement téméraire, non seulement Dieu agit de manière spectaculaire au travers du prophète, mais c'est aussi un jeune prophète obéissant. Et c'est certainement ça le plus important. Regardez dans les versets 7 à 10. Le roi d'Israël du Nord, Jéroboam, essaye de le corrompre. Ça, c'est intéressant. Nous, en tant que chrétiens, on aimerait être davantage reconnu par les autorités civiles. Hein? Nous sommes des chrétiens évangéliques qui représentons 0,5% de la population au Québec, peut-être entre 0,5 et 1%, c'est rien. On aimerait bien être reconnu, ne plus se sentir marginal, c'est être reconnu par la société. Et parfois, en tant que chrétien, nous recherchons cette reconnaissance. Et ça peut nous pousser très loin, ça. Et ça peut nous placer dans des situations de compromis. En tous les cas, le prophète faisait face à une tentative de corruption, au verset 7. Le roi lui dit, entre avec moi dans ma maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Ça y est, enfin, les autorités civiles reconnaissent que je suis le prophète de l'Éternel. Je vais y aller, peut-être que je pourrai rendre témoignage à Dieu quand je serai dans la maison du roi. N'est-ce pas? Ben, c'était une tentative de corruption. Le roi savait très bien que si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, peut-être qu'il vaut mieux que tu en deviennes ami pour pouvoir davantage le contrôler, n'est-ce pas? Et il lui demande de venir manger chez lui. Manger, dans le Proche-Orient ancien, c'est aussi le symbole d'une communion. Quoi? Le jeune prophète accepterait d'aller manger chez le roi, d'être en quelque sorte en communion avec ce roi païen? Eh bien, la réaction du prophète, elle est très claire au verset 8 et 9. « Tu m'as donné un ordre, Seigneur, et c'est ce qu'il dit au roi, tu n'entreras pas dans la maison, tu ne mangeras pas de pain avec lui, tu ne boiras point d'eau, et même quand tu vas partir par un autre chemin. Tu es arrivé par ce chemin, tu partiras par un autre. » Donc le jeune prophète prend une position extrêmement claire. Il a des convictions et il applique ses convictions. Il obéit au Seigneur et il est conséquent, il s'en va par un autre chemin. Ça, c'est l'épisode extraordinaire de ce chapitre 13. Épisode qui peut même nous donner quelques envies dans notre ministère. Okay. Mais à partir du verset 11, nous assistons à un renversement total de situation. Aussi élevé ce jeune prophète a pu être dans l'accomplissement de sa mission, aussi bas il va tomber. Alors regardons à partir du verset 11. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Décidément, ils sont hospitaliers, ces habitants de Bethel. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, ça c'est le vieux prophète qui répond, moi aussi je suis prophète comme toi. Alors rendu là, le lecteur qui lit ce passage pour la première fois se pose la question suivante, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le jeune prophète va continuer à être conséquent? Ou est-ce que le jeune prophète va céder? Et en lisant le reste du texte, nous voyons que ce vieux prophète lui dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Alors, si nous mettons dans la peau d'un lecteur qui lit ce texte pour la première fois, nous pourrons nous dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, Dieu a envoyé quelqu'un, puis là on sait que cette personne-là vient de désobéir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'intérêt du lecteur, il se développe là. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, au verset 19, et au verset 20, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Alors là, c'est surprenant. Dieu décide de parler à ce vieux prophète qui est menteur pour communiquer au jeune prophète sa volonté. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui, l'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Le texte ne rapporte pas du tout l'état d'âme de ce vieux prophète. Il aurait pu se repentir quand même d'avoir menti, il aurait pu se repentir d'avoir testé ou tenté ce jeune prophète, mais non, le texte s'intéresse à autre chose. Alors il partit, et ce vieux prophète trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Le jugement du jeune prophète. Tout d'abord, le jeune prophète a manqué de discernement face au mensonge de ce vieux prophète. Vous savez que les faux prophètes sont souvent bien déterminés. Et ce vieux prophète était bien déterminé à recevoir le jeune prophète dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que ce vieux prophète, il habitait à Bethel. Il habitait dans le centre de la corruption, dans cette ville où on pratiquait l'idolâtrie. Peut-être que ce vieux prophète vivait dans le compromis et que ce vieux prophète se disait « Ouais, si je pouvais inviter ce jeune-là, ce jeune prophète qui vient de marquer la population par son action, son jugement, la guérison du roi lorsque sa main était sèche, peut-être que ça me redonnerait un petit peu de crédibilité, tu sais ?» Mais je ne sais pas quelle est l'intention du vieux prophète. Le texte ne nous le décrit pas. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est déterminé. Il demande à ses fils de sceller l'âne, il monte sur l'âne, puis il part à la poursuite de ce jeune prophète pour essayer de le ramener chez lui. Et au verset 15, il invite le jeune prophète. Et il invite le jeune prophète en mentant. Quand il a vu que le jeune prophète voulait être fidèle à Dieu, quand il a vu qu'il n'avait pas d'impact pour influencer ce jeune prophète, il a menti. C'est un peu ce que font les faux prophètes, entre parenthèses. Les faux prophètes ont toutes sortes de mauvaises intentions, et quand ils veulent détourner des gens de la foi chrétienne et qu'ils rencontrent certaines difficultés, eh bien ils mentent. Ils sont passés pour des vrais serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Et ce vieux prophète n'était pas un serviteur de Dieu. Il prétendait que Dieu lui avait parlé. Ah, un ange de Dieu m'a dit que tu pouvais venir. Comment ça, un ange de Dieu peut contredire la parole du Seigneur? Mais pourtant, ça a fonctionné. Vous vous rappelez qu'est-ce que dit l'Épître aux Galates? On a lu un extrait de l'Épître aux Galates tout à l'heure. Même si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, quelque chose qui ne soit pas l'évangile, même si quelqu'un venait se prétendre envoyé par Dieu, Paul nous dit qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Le texte nous décrit l'annonce du jugement de Dieu dans les versets 19 à 21. Et là encore, Dieu agit d'une manière surprenante. C'est impossible pour l'être humain de vouloir contrôler Dieu. C'est impossible pour l'être humain de désobéir à Dieu en pensant qu'on va s'en sortir. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour toucher notre vie. Et Dieu utilise un moyen auquel nous n'aurions pas pensé, pour annoncer le jugement sur ce jeune prophète. Il utilise celui qui a menti. Il utilise le vieux prophète. Et cette fois-ci, c'est vrai ce que le vieux prophète va dire. Assez surprenant de voir que Dieu agit de cette façon-là. Donc le verset 19 nous décrit très rapidement la désobéissance de ce jeune prophète. Verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans la maison du vieux prophète. Voilà, c'est dit d'une manière très très simple, sans élaborer. L'auteur n'essaye même pas de décrire les émotions qu'il pourrait lui-même avoir. Oh, c'est scandaleux! Regarde ce que ce jeune prophète a fait! Regarde ce qu'il a fait quand il a prononcé son jugement devant Jéroboam, puis regarde maintenant ce qu'il fait! C'est, non, non! L'auteur ne donne aucun commentaire sur ses états d'âme. Mais c'est vrai que, en lisant ce passage, nous aussi, nous pourrions réagir de cette manière, tu sais, face à la désobéissance de ce jeune prophète. Donc le jugement est expliqué dans le verset 21b et 22, « Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, tu as mangé, tu as bu, dans le lieu dont il t'avait dit tu n'y mangeras point, tu n'y boiras point, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Donc le jugement est donné, mais le jugement est aussi expliqué. Dieu explique ses jugements. Et Dieu va expliquer ses jugements au jugement dernier. Vous savez, les gens qui ne comprennent pas trop l'évangile, qui ne prennent pas très au sérieux la question du jugement de Dieu, ceux qui refusent de donner leur vie au Seigneur pour échapper à la colère de Dieu, ben, ils vont être jugés. Mais ils vont être jugés, mais Dieu va expliquer pourquoi ils vont être jugés. Ils vont être jugés parce qu'ils n'auront pas accepté le Seigneur Jésus. Parce qu'ils n'auront pas accepté le don de Christ qui a porté nos péchés à la croix à notre place. Et comme dans ce texte ici, Dieu va expliquer son jugement. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le porte-parole du jugement, c'est ce vieux prophète. C'est surprenant. C'est aussi surprenant que l'épisode durant lequel Balaam désobéit à Dieu, puis Dieu fait parler une ânesse. C'est, Dieu nous parle quand nous désobéissons. Et il peut utiliser même des non-croyants pour nous parler. Il peut utiliser des situations auxquelles nous n'aurions jamais pensé pour nous parler. Et pourtant, bien souvent, il nous faut reconnaître que nous avons de la difficulté à écouter lorsque Dieu nous parle. Alors, l'accomplissement du jugement nous est décrit dans le texte, dans les versets 24 à 32. Il est question de la mort du jeune prophète. Le lion le tue. Et le texte nous donne une description d'un tableau surprenant. Tu sais, le corps du jeune prophète, l'âne à côté, le lion à côté. Le lion n'a pas dévoré le corps du prophète, il n'a pas dévoré l'âne. C'est une situation complètement irréaliste, là. Et irréaliste au point où tous les gens qui passaient sur le chemin ont été témoins de cela. Donc ça a été un jugement public. Ça a été un jugement qui a marqué les passants. Et il fallait que le jugement marque les passants. Vous savez, c'est comme, vous avez certainement entendu parler de certains serviteurs de Dieu en Amérique du Nord qui, après un ministère qui semblait fructueux pendant des années, sont tombés. Ils sont tombés pour toutes sortes de raisons. Souvent des scandales d'ordre sexuel, malheureusement, ou des mauvais comportements, de ces serviteurs-là. Et lorsqu'ils tombent, souvent, la chute est publique et les conséquences sont publiques. Plus nous servons le Seigneur, plus notre chute et le jugement du Seigneur va être public. Plus l'humiliation va être publique, c'est vrai. Mais il faut qu'elle soit publique pour que les hommes et les femmes sachent que Dieu ne tolère pas le péché. Alors, ne vous exemptez pas de servir dans l'église par peur de tomber, puis que votre péché devienne public. Ah non, servez dans l'église, mais restez fidèles au Seigneur. Voilà, c'est qu'on peut tirer comme enseignement de ce passage. Et le texte continue en disant que cet homme-là sera enterré loin de ses pères. Et ça, c'est un jugement extrêmement fort. Être enterré dans le caveau de ses pères, de sa famille, c'est extrêmement important. Lorsqu'un roi était tellement mauvais que Dieu dit « Tu ne seras pas enterré avec tes pères », c'est une malédiction. Donc ce jeune prophète est maudit, nous dit en quelque sorte ce texte. Conclusion, je ne sais pas quelle heure vous finissez, mais moi quand je pars, je ne m'arrête plus. Alors, tant que je ne vois pas quelqu'un qui dort, c'est que c'est bon signe. C'est... Alors, conclusion, j'aimerais revenir au titre que j'ai donné à cet enseignement, une écoute partielle. Vous avez peut-être entendu parler de vieux couples qui se plaignent de temps en temps que leur conjoint n'écoute pas. Parfois, nos oreilles commencent à perdre leur capacité, puis on écoute un peu moins, on entend un peu moins. Et vous connaissez tous cette blague qui consiste à dire que si je n'écoute pas mon conjoint, c'est pas tellement parce que je suis vieux et que j'ai une mauvaise écoute, c'est parce que je sélectionne ce que je veux écouter. Hein? On est un petit peu comme ça parfois. On sélectionne ce qu'on veut écouter. Et ce texte, en tout cas, nous montre que si nous sélectionnons ce que nous voulons écouter quand Dieu parle, si nous pratiquons une écoute partielle, c'est tragique. Et ça va être tragique dans notre vie. Et nous allons faire face à des conséquences dans notre vie. Ah bien sûr, Satan va venir nous dire, non, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de conséquences. Est-ce que Dieu a dit que c'est interdit de manger du fruit, tu sais ? Non, vos yeux qui vont s'ouvrir, là, c'est pas vrai, c'est une blague, n'y crois pas. Prends du fruit, c'est bon pour toi. Regardons la tragédie d'une écoute partielle. Pourquoi c'est une tragédie lorsque nous pratiquons une écoute partielle ? C'est parce que la parole de Dieu s'accomplit. Et lorsque nous désobéissons, la parole de Dieu s'accomplit. Et ça, c'est tragique pour celui qui désobéit. C'est une source de joie pour celui qui est fidèle à la parole de Dieu, mais c'est une tragédie pour celui qui désobéit à Dieu. Parce que Dieu le dit, n'est-ce pas ? Si nous chutons, si nous tombons, nous faisons face à notre péché. Au verset 26, nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit. Le verset le spécifie clairement. C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qu'il a déchiré, l'a fait mourir, selon la parole que Dieu lui avait dite. Selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Prenons au sérieux ce que Dieu dit. Et n'abusons pas de sa grâce. Mais au contraire, soyons obéissants. Car la parole de Dieu s'accomplit dans le présent, mais la parole de Dieu aussi s'accomplit dans l'avenir, puisque plus tard, la prophétie prononcée contre l'autel a été accomplie. Tragédie d'une écoute partielle. Tragédie d'un refus d'écouter. Parce que lorsque nous pratiquons l'écoute partielle, c'est que nous refusons d'obéir à Dieu. Nous refusons véritablement de l'écouter. Jéroboam a refusé d'écouter Dieu. Il a consacré des prêtres, nous dit les versets 33 et suivants, pour que le peuple puisse pratiquer l'idolâtrie. Et ça a eu des conséquences néfastes sur tout Israël du Nord. L'histoire d'Israël du Nord, c'est l'histoire d'un peuple qui est devenu idolâtre et qui a été constamment châtié par Dieu, après que Dieu ait envoyé inlassablement des prophètes pour les ramener à lui. La tragédie du refus d'écouter. Verset 22, parce que tu es retourné, tu as mangé du pain, tu as bu, mais voilà ce qui va t'arriver. Mais en lisant ce verset, je me pose la question suivante. Est-ce que nous aussi, nous ne pratiquons pas l'écoute partielle. Est-ce que nous aussi, nous sommes tout excités à obéir à Dieu quand ça nous arrange? Surtout quand Dieu fait de nous des serviteurs puissants. Mais est-ce que nous sommes en même temps pratiquants d'une écoute partielle? Dieu nous appelle à une écoute totale. En hébreu, écouter, ça veut dire aussi obéir. Si j'écoute Dieu, c'est que je lui ai obéi. Regardons l'exemple de Jésus-Christ. La volonté, le désir de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu, et faire la volonté de Dieu, c'était sa nourriture. Le Seigneur n'a pas désobéi à Dieu du tout dans sa vie. Ouais, écoute, mon père, là, tu me permets de faire des miracles, guérir des boiteux, des paralytiques, tu me permets de calmer la tempête, tu me permets, Seigneur, de multiplier les pains. Ah, ça, c'est génial, Seigneur. Ben, tu sais, ta petite idée, là, que j'aille me faire crucifier sur une croix, ça, c'est peut-être un peu moins intéressant. Donc, tu vois, cher Père, peut-être qu'il faudrait que tu modifies ton plan. Le Seigneur n'a pas pratiqué une obéissance partielle. Suivons donc son exemple, tout en nous rappelant, par contre, que même s'il nous arrive de désobéir, le pardon de notre Seigneur est disponible. N'est-ce pas que c'est fantastique, ça? Autant la désobéissance est tragique, autant le pardon de Dieu est une réalité. Mais de grâce, n'abusons pas du pardon de Dieu pour justifier notre désobéissance. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci Seigneur, parce que toi, tu as toute autorité pour exiger de nous une obéissance totale, complète. Tu es le Dieu souverain, celui dont le trône est au-dessus de tous les trônes. Seigneur, donne-nous un cœur prêt à t'obéir. Donne-nous aussi, Seigneur, du discernement face aux faux prophètes. Seigneur, tu vois combien c'est tentant parfois d'écouter ces prédicateurs de l'évangile du succès. Peut-être que nous aimerions nous aussi avoir du succès. Mais Seigneur, garde notre cœur, afin que nous puissions discerner par ta parole. Afin que nous puissions discerner les faux prophètes. Seigneur, ne nous permets pas d'écouter la parole d'un vieux prophète qui prétend parler de ta part, ou de quelqu'un qui prétend avoir reçu un message d'un ange quelconque. Mais Seigneur, rends-nous fidèles à ta parole afin que nous puissions lui obéir. Seigneur, nous te le demandons en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui est notre modèle par excellence. Amen.